La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Tounda et Jean-Christophe Brianchon, Boris Pinault et Grégoire Difior, et prise de son assurée ce soir par Alexandre Dang, réalisation Daniel Finot. Autour de moi ce soir, Anna Sigalevitch, Fabienne Pascot et Jean-Christophe Brianchon. À notre affiche, La pitié dangereuse, d'après le roman de Stefan Zweig, mis en scène Simon McBurnest au Théâtre des Gémeaux. Les particules élémentaires, d'après Michel Houellebecq, mis en scène Julien Gosselin, c'est au Théâtre de l'Odéon. À vif, de Kerry James, c'est au Théâtre du Rond-Point. Présente également ce soir à mes côtés Aïssa Tounda qui surveillera en direct le fil de la Twitter Dispute FC pour donner à entendre vos commentaires si vous avez vu ces spectacles. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Raymond Depardon Traversée à découvrir jusqu'au 17 décembre à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. Riche programme, quelques commentaires sur mon Twitter, je me permets à Aïssa Tounda de Elisabeth Itty, espère avoir le son depuis Venise, donc j'espère que vous nous entendez, Elisabeth Itty, si vous nous captez au bord de la lagune, vous avez bien de la chance. Notre consoeur Elisabeth Philippe dit que Gosselin est le seul metteur en scène pour qui elle peut passer 12 heures au théâtre, on en parle tout à l'heure, et puis Adi Ross qui nous dit qu'elle a vu hier le Zweig aux Gémeaux. Très grand McBurney, que dire des comédiens de la Schaubühne, du très très bon théâtre. Et c'est avec effectivement cette double rencontre que nous commençons, double rencontre qui pouvait laisser présager d'un grand spectacle. Rencontre du roman de Stefan Zweig, La pitié dangereuse, avec le metteur en scène Simon McBurney, et de Simon McBurney avec la troupe de la Schaubühne de Berlin. Présenté aux Gémeaux dans le cadre du Festival d'automne et de la programmation hors les murs du Théâtre de la Ville. Autant dire que pour moi, la rencontre a eu lieu formidablement, terriblement. J'y reviendrai. La pitié dangereuse, la traduction littérale du titre original, c'est L'impatience du cœur. Seul roman achevé de Stefan Zweig. Il est paru en 1939. Zweig avait plutôt l'habitude de réduire ses textes, et pourquoi on a des nouvelles, un certain nombre. Alors ce texte-là a échappé à ce format. Le roman, c'est un récit a posteriori fait par Anton Hofmiller de quelques semaines vécues à la veille de la Première Guerre mondiale. Il est en garnison dans une petite ville, il est lieutenant dans la cavalerie, puis il est convié à une réception chez la grande famille du coin, les riches Kekes Falva, et il invite à danser Edith, la jeune fille de la maison, sans savoir que celle-ci, qui est assise dans un fauteuil, est paralysée. Sentiment de honte qui submerge notre pauvre lieutenant, un sentiment qui va avoir de terribles répercussions.
Wenn ich es nur verkaufen könnte.
Wenn ich es nur verkaufen.
Das große Geschäft seines Lebens fiel ihm geradezu in die Hand und er musste einfach nur zugreifen.
Die Ziffern zuckten und schwirrten ihm vor den Augen.
Also der wahre Wert müsste 600.000...
700.000!
800.000 Kronen sein.
Haben, gnädiges Fräulein, verzeihen Sie, wenn ich so indiskret frage, eine ungefähre Vorstellung des Preises?
Nein.
Also der amtliche Schätzwert entspricht natürlich nie dem Verkaufswert. Mit 150.000 Kronen, denke ich, könnte man rechnen.
Wie viel meinen Sie?
Kann ich dröhnten die Ohren bei dem so plötzlich aufpochenden Blut.
Hatte sie das lügnerische Spiel durchschaut?
Also, 150.000 Kronen könnte man unbedingt erzielen.
So viel? Glauben Sie wirklich so viel?
Ja, gnädiges Fräulein. Also, dafür kann ich bürgen. Das wird durchzusetzen sein.
Um 8 Uhr morgens, noch ehe der Verwalter zurückkam, saßen sie bereits einverständlich im Schnellzug nach Wien. Napoleonisch kühn und napoleonisch gefährlich. war diese Kuh.
Kallitz musste sofort zu seinem Spießgesellen.
Dem Advokaten Dr. Gollinger.
Er sollte den Kaufbrief vorbereiten.
Ich stöberte ihn in einer Weinstube auf. Ich bot ihm 2000 Kronen.
Je näher er seinem Ziel kam,
umso nervöser bedrängte ihn der Argwohn.
Die bisher so folgsame könnte noch ausspringen.
Also, sie könnte Verdacht schöpfen, geprellt zu werden. Sie darf niemandem begegnen.
Er brachte sie in eine Bank.
Rief den Prokuristen holen.
Um ihr ein Konto zu eröffnen.
Er zerrte sie in 2, 3 Hypothekenanstalten.
Und in ein obskures Realitätenbüro.
Ganz so, als ob er dann irgendwelche Auskünfte holen müsste.
5:30 abends war alles erledigt.
Voilà quelques instants, quelques bribes sonores de ce spectacle qui va en effet très vite, comme cet extrait assez révélateur le laisse entendre. Anna Segalevich, pour commencer, sur La pitié dangereuse, d'après Stephen Zweig, mise en scène Simon McBurney.
Alors oui, ça va très vite et moi j'ai été vraiment saisie du début à la fin, il n'y a aucun temps mort, on nous accompagne beaucoup, ça j'y reviendrai peut-être, hein, dans la notion d'accompagnement dont fait preuve Simon McBurney vis-à-vis des spectateurs. Bon, c'est un roman qui est absolument génial. Moi, j'aime énormément ce texte que Zweig écrit juste avant la Seconde Guerre mondiale. Hein,
De s'exiler.
À Londres.
À Londres.
Exactement.
Et la guerre va éclater.
Et la guerre va éclater. Et
comme celle de 14 dans
voilà.
Dans
son texte. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le prologue du roman, quand Zweig rencontre
Il se met en scène.
Hofmiller, ouais. Voilà, il se met en scène au départ et ils sont tous, enfin, ils sont à un dîner et on leur dit mais non, il va pas y avoir de guerre, pas du tout après ce qui s'est passé, voilà. Et tous les deux sont pas dupes, ils ont quelque chose de très lucide et c'est leur lucidité qui les réunit. Et c'est pour ça que Hofmiller a envie de raconter son histoire à Zweig. Et Zweig dit bah oui, bien sûr, j'ai le temps, vous allez me raconter l'histoire. Et après le prologue, dans le roman, on passe au présent. Et à ce moment-là, l'histoire se déroule au présent pendant tout le récit. Ce que ne fait pas Simon McBurney. Donc voilà. Pour moi, l'adaptation est absolument brillante parce qu'il arrive à mélanger les temporalités. Donc, il y a un Hofmiller qui est narrateur de l'histoire, qui est un petit peu plus âgé, qui est à une table à l'avant-scène court face à Zweig ou quelqu'un d'autre. Il y a une figure comme ça qui est là tout au long du spectacle, qui donne les accessoires, qui prend la parole par moment, etc. On commence d'ailleurs le spectacle par la lecture. On ouvre le livre de cette histoire et on voit en fond de scène une vitrine avec la veste de François Ferdinand, l'empereur qui a été assassiné en 14. Voilà, ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Donc on commence comme ça, par l'histoire, puis ensuite on rentre dans la lecture du livre, et ensuite les choses s'incarnent ou se désincarnent, parce que c'est plus la notion d'incarnation.
Avec un âgé, donc, et un
jeune. Plus jeune. Voilà, qui
celui
va
du
donc
présent, du
vivre
récit.
Cette histoire. Mais il vit cette histoire, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'au départ, donc, la parole circule tout de suite. Ils sont 7 acteurs en scène, donc tous les 7, d'ailleurs un peu dispersés partout sur la scène, avec des micros, avec des pupitres, et la parole circule tout de suite. Donc il y a quelque chose de très choral, de très polyphonique, il y a vraiment la notion musicale et symphonique qui entre en jeu dès le départ et qui d'ailleurs ne va jamais s'arrêter, et la parole circule. Et en fait, on comprend très vite que cet Hofmiller, ce qu'il vit, c'est... il y a quelque chose d'à la fois au présent et en même temps les souvenirs qui se mélangent. Il est face aux fantômes de son passé et à sa culpabilité et à sa conscience. Et tous les personnages, même s'ils sont très souvent ensemble, sont aussi très souvent seuls. Et donc, il y a cette notion qui est très belle, je trouve, de les voir tous dispersés sur scène, qui racontent l'histoire et en même temps qu'ils la vivent seuls face à cette horreur et à ce cauchemar, en fait, qu'ils vont vivre ensemble, qui est une sorte de course effrénée et de fuite en avant qui va finir très très mal. Donc
la parole circule.
Oui, pardon.
Ici aussi.
Mon monologue, excusez-moi.
Non, mais vous êtes une très bonne introduction, comme toujours, Anna Segalevich. Circule vers Jean-Christophe Brianchon, cette parole.
Eh bien, autant dire tout de suite que moi aussi, ça a tout à fait marché. Ça a tout à fait marché sur moi. J'ai été pris de la première à la dernière minute. Ce qui m'a avant tout intéressé, je pense qu'il y a tellement de choses à dire que c'est compliqué, c'est riche, c'est un spectacle qui est très très riche et il faut être en forme pour y aller, autant le dire aussi tout de suite. Ce que je trouve très très intéressant dans la manière de l'aborder, enfin, une des choses intéressantes, c'est ce rapport à la théâtralité qu'engage Simon McBurney, puisque comme le disait Anna, il y a à la fois une dimension de lecture, donc d'anti-théâtralité qui est mise en place, non seulement par la scénographie, puisque les corps sont dispersés, sont tous attablés et lisent parfois une certaine partie de la pièce, et en même temps un ancrage dans la théâtralité qui est très très fort, qui est plus fort qu'on ne peut le voir la plupart du temps pendant l'année dans une saison, puisque les acteurs sont évidemment d'une présence omniprésent, et il y a un système qui est mis en place de un petit peu comme dans le no japonais de séparation du corps et de la voix, mais alors seulement sur certaines personnes, en l'occurrence sur les personnes faibles, puisque ce sera la fille du, il est duc ou
baron.
Qu'est-il ?
Il est baron.
Baron. Voilà.
Il n'y a rien du tout, en fait.
Oui.
Baron.
Il s'est proclamé
baron du village.
Alors, cette séparation de la voix et du corps est faite chez la fille du baron, chez Edith, et plus tard chez la femme du médecin de cette jeune fille. Et donc le corps de l'acteur est évidemment très présent, et donc ce rapport, ce lien qu'entretient Simon McBurney pendant toute la pièce entre théâtralité et anti-théâtralité, et je trouve fascinant, et sans jamais tomber ni d'un côté ni de l'autre, il y a une espèce de prouesse technique et formelle qui est assez incroyable, sans jamais oublier le sentiment, puisque par l'historicisation la contextualisation, il arrive à une sentimentalisation de ce texte qui est évidemment évidente, puisque si on le prend de premier abord, ce n'est rien d'autre qu'une histoire d'amour. Mais finalement, lui arrive à en faire quelque chose, enfin une histoire d'amour.
Oui. Curieuse histoire d'amour.
Curieuse histoire d'amour.
Il y a de l'amour dans cette histoire.
En tout cas, de prime abord, c'est ça. Oui, ça se discute. Enfin. De prime abord, c'est ça, et puis petit à petit, ça avance vers autre chose, et en fait, c'est toute l'histoire de la marche de ce siècle et de l'homme face à ce siècle qui va se dérouler devant nous. C'est absolument brillant.
La parole circule vers Fabienne Pascaud qui va ajouter une brique à ce joli mur qui commence à être construit.
Je vais essayer d'apporter quelque chose parce que mes camarades ont déjà dit beaucoup. Ça n'est pas qu'une histoire d'amour, parce que c'est aussi une histoire politique. Parce que même dans le roman, et ça Simon McBurney va en rajouter encore une couche en nous montrant à la fin en vidéo des réfugiés, des images d'aujourd'hui. C'est déjà, même quand Zweig écrit le roman en 39, il a la guerre de 14 en ligne de mire, mais celle qui va venir aussi. Et son héros, Hofmiller, même s'il est devenu plus héroïque qu'on ne peut le penser à la guerre de 14, ben, il n'a rien appris. Finalement, c'est une sorte de anti-héros qui n'a rien compris. C'est un faux roman d'apprentissage, en fait, cette pitié dangereuse. Et finalement, les événements vont se passer, puisque le roman s'achève presque à l'assassinat de l'archiduc, à Sarajevo. Et finalement, on va se retrouver en 39. Donc, cette zone bizarre, personne, aucun héros n'a rien appris. Et Zweig, comme McBurney, nous alerte sur cette fausse pitié qu'on a eue pour cette pitié dangereuse, comme il dit. Parce que le personnage principal, Anton Hofmiller, eh bien finalement, à quoi ça lui a servi cet amour ou ce non-amour qu'il a eu pour cet handicapé? Ça l'a servi qu'à la mener au suicide. Elle. Donc c'est une catastrophe. Et Zweig nous répète sans cesse, cette pitié-là que vous avez les uns pour les autres, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est vous aimer, c'est avoir une vraie compassion. Et tant que vous n'aurez pas une vraie compassion, eh bien, le temps ne vous apprendra rien, la mémoire ne vous sera d'aucune utilité, et les événements se répéteront à satiété. Et Simon McBurney, on peut penser que via la pitié dangereuse, il nous alerte aussi sur cette pitié qu'on peut avoir aujourd'hui pour les réfugiés, pour les pauvres, pour les miséreux de toutes sortes. Si elle n'est pas accompagnée par un amour véritable, elle ne sert à rien. Et c'est ça, moi aussi, qui m'a troublée dans ce spectacle. Parce que vraiment, son théâtre, c'est pas pour rien s'il s'appelait Théâtre de la complicité. Il a une vraie complicité, et avec le spectateur, c'est ce que disait tout à l'heure Anna, parce que c'est vrai qu'il a une vraie conduite d'accompagnement à travers ce texte, mais aussi pour nous, citoyens, il nous accompagne. Donc la complicité, elle est dans son geste théâtral en permanence. Et ça, je trouve ça assez bouleversant de sa part. C'est un spectacle très politique aussi pour moi.
Oui, parce que, dit autrement, c'est la mauvaise conscience ne produit rien de bon.
Voilà, ça sert à rien.
Enfin, si je résume très très lapidairement, c'est parce que c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Est-ce que quand je disais amour, ça se discute en effet, parce que c'est pas le véritable amour, ce que vous disiez à l'instant, Fabienne Pascaud. Il y a la fin de la dernière phrase. Aucune faute n'est oubliée tant que la conscience s'en souvient. La conscience ou la mauvaise conscience, en l'occurrence, de cet homme qui fait une gaffe. Hein, c'est le mot employé dans le texte de Zweig. C'est une gaffe au départ. Voilà, invité à danser. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, sauf qu'il n'a pas vu le fauteuil roulant, ça devrait s'arrêter là. Mais ça le travaille aussi pour sa propre image, parce que c'est quand même quelque chose de très égocentré aussi, cette histoire de ce lieutenant. Il n'a pas envie qu'on dise du mal de lui, donc ça va le conduire à faire un pas de plus, puis un pas de plus, puis un pas de plus, effectivement, jusqu'au drame, pour l'un comme pour l'autre, d'une certaine façon, puisque, vous le disiez, il n'apprend rien. Revenir un instant sur la forme, vous parlez de musique, Anna Sikalevitch. Alors ce qui est très étonnant, et on en parlera tout à l'heure de la question de l'adaptation avec Julien Gosselin aussi, c'est la façon qu'a Mac Burney. Alors, il avait livré, on s'en souvient, je pense que nous l'avons vu autour de cette table, son Maître et Marguerite, a priori inadaptable roman de Bulgakov qu'il avait montré dans la cour d'honneur et dans d'autres salles en France et dans le monde, ce qui était tout à fait spectaculaire dans sa fluidité, dans sa linéarité. En même temps, c'était presque l'inverse qu'il fallait faire, c'était de rendre quelque chose de lisible à partir d'un roman monde. Et là, il part d'une sonate, il en fait une pièce pour orchestre, en fait, d'une certaine façon, parce que c'est un récit seul, celui de Hofmeller, et là,
qui est linéaire.
Et là, il le déstructure, il le réorchestre, il le réarrange. Bon, les comédiens de la Schaubühne, voilà, sont une troupe tout à fait remarquable. Ce sont ces sept-là, en l'occurrence, que l'on peut voir en ce moment aux Gémeaux. Mais la magie des grands textes aussi, et des grandes mises en scène, et des grands interprètes, c'est que ça permet, malgré tout, de surmonter aussi un peu la barrière linguistique, parce que moi qui ne suis absolument pas germanophone, je veux dire que, comme on l'a entendu dans l'extrait, le texte, quand Jean-Christophe Briançon dit qu'il faut être en forme, c'est qu'il faut aussi pouvoir entrer dans ce texte, parce qu'on lit, on lit, on lit les surtitres, enfin, moi j'ai passé beaucoup de temps, mais il y a quelque chose qui opère tellement que je comprenais presque l'allemand à l'issue de cette représentation. Anna Sikalevitch.
Ah bah oui, non, c'est moi je parle pas non plus du tout allemand. Bon, j'avais quand même le texte en tête parce que je l'aime beaucoup, mais quand bien même, en effet. Mais c'est vrai qu'on ressent des choses très très fortes. Alors, c'est un peu à double tranchant, ça, je trouve, parce que cette bande son qui est omniprésente, elle est absolument brillante, elle est absolument juste, c'est remarquable, et le rythme effréné, cette course dans laquelle on est emmené, elle est juste parce que on comprend ce héros qui est lui-même pris dans cette course et qui une fois qu'il est dans les rouages du dispositif dans lequel il s'est lui-même emprisonné, il est coincé. Donc ça, on le sent très bien. Après, bon. C'est vrai que ce rythme et cette bande son très omniprésente, quand il y a des moments de compassion, des moments où on entend du malheur, quand il y a des moments qui sont un peu cauchemardesques, on entend une bande son un peu stridente. Voilà, bon.
Les comédiens font le son eux-mêmes.
Les comédiens font le son, oui, ça c'est le côté toujours artisanal, hautement technologique de Simon Backburney, comme il faisait dans La Flûte Enchantée,
comme on le verra dans The Encounter, qu'on a vu voir absolument au printemps des comédiens, qui va être donné bientôt à l'Odéon cette saison.
Qui est encore plus poussé à son maximum. Les spectateurs ont un casque sur les oreilles. C'est un système binaural qui est extrêmement sophistiqué. Donc bon, là c'est pas de ce niveau-là, mais c'est vrai que par moment, moi je me suis dit l'ambiguïté du texte, l'ambivalence des sentiments, etc., perd un peu parce que, toutes les trois secondes, il se passe quelque chose de nouveau. Donc, bon, c'est un immense plaisir de spectateur, immense, c'est remarquablement bien fait, mais c'est vrai que par moments, je me suis dit, ah là, j'aimerais bien un peu respirer ou ressentir moi-même les choses et pas toujours être accompagnée et prise par la main. Mais En même temps, je dois dire que je me contredis moi-même.
C'est parce bien, que, d'accord. C'est pour ça qu'on garde la parole.
Parce que ce que disait Fabienne sur le côté politique, qui est très très bien mis en scène par Simon McBurney, je dois dire qu'après le spectacle, il y a un appel à la conscience. Vraiment, qu'on sent très fort et on est seul face à soi-même. Il arrive à ne... sans aucun jugement moral, sans aucune pensée assénée, sans aucune bien-pensance, sans aucune culpabilisation, sans rien de tout ça, à nous mettre juste droit dans nos bottes, face à nous-mêmes et face... enfin, les yeux ouverts face au monde dans lequel on est. Donc c'est quand même... bon, c'est quand même pas rien.
C'est pas rien. Fabienne Pascaud ?
Oui, c'est un spectacle qui nous alerte. Et c'est ça qui est formidable. Et puis moi, je reste quand même très, très bluffée par cette virtuosité que possède au plus haut degré McBurney d'adapter. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a eu Murakami, il y a eu Nabokov. Enfin, et sans suivre, sans illustrer jamais. Il redécoupe, il réarchitecture et il arrive à retrouver l'âme du texte. Ça, c'est prodigieux.
Jean-Christophe Briançon, un dernier mot.
Je suis assez d'accord avec Anna sur le problème de l'efficacité et du rythme. On avait parlé avec Fabienne il y a, je sais plus, 2 semaines à propos de Simon Stone. Je pense que effectivement ça pourrait être un problème. En l'occurrence, compte tenu de lui, de la thématique qui est celle de la pièce, qui est celle effectivement de l'incapacité de l'homme à contrer la rapidité du temps et à contrer l'histoire qui se fait. En l'occurrence, là, je trouve que ça rentre bien en résonance parce que l'efficacité de la pièce rentre aussi avec l'efficacité du temps. Il rentre en résonance avec l'efficacité du temps historique qui, de fait, auquel de fait, on ne peut pas,
on ne peut pas échapper.
Donc finalement, ça correspond bien, ça rentre bien en résonance et on peut du coup pas réellement lui reprocher ce souci d'efficacité qu'est le sien.
Oui, parce qu'en plus, ce qui est étonnant, c'est que ce qui peut paraître un petit peu corseté sur la forme est très subtil sur le fond.
On s'arrête là-dessus. La pitié dangereuse, d'après le roman de Stefan Zweig, mise en scène Simon McBurney, c'est au Théâtre des Gémeaux dans le cadre du Festival d'automne et de la programmation hors les murs du Théâtre de la Ville jusqu'au 24 septembre. Un spectacle qui sera repris en France au TNP à Villeurbanne du 23 au 30 mars. À suivre dans la dispute, Julien Gosselin et Kerry James. Si vous avez des avis à partager sur ces spectacles, n'hésitez pas à réagir en suivant le fil Twitter Dispute FC.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le deuxième spectacle à notre affiche ce soir, c'est Les particules élémentaires, d'après Michel Houellebecq, adapté et mis en scène par Julien Gosselin à l'affiche de l'Odéon Théâtre de l'Europe. Il y a 2 ans, c'est aux ateliers Berthier qu'avait été repris ce spectacle, créé au Festival d'Avignon 2013, qui avait révélé au plus grand nombre le jeune metteur en scène, qui était alors âgé de 26 ans. C'est dans les ors de la salle historique de l'Odéon que nous sommes cette fois invités à suivre le parcours chaotique de 2 demi-frères, Michel et Bruno, entrés dans l'âge adulte dans les années 70, au moment où l'Occident plongeait dans la crise.
À partir de la 4e, les élèves pouvaient s'inscrire au ciné-club.
Les séances avaient lieu le jeudi soir dans la salle des fêtes de l'internat de garçons. C'était des séances mixtes.
Un soir de décembre, Bruno s'assit à côté de Caroline Yessaillant.
Oh non, putain, pas Caroline Yessaillant, merde.
Avant la projection de Nosferatu le vampire. Vers la fin du film, après y avoir pensé pendant plus d'une heure, il posa très doucement la main gauche sur la cuisse de sa voisine. Pendant quelques secondes merveilleuses. 5, 7. Sûrement pas plus de 10. Il ne se passa rien. Elle ne bougeait pas. Une immense chaleur envahissait Bruno. Il était au bord de l'évanouissement. Puis, sans dire un mot, sans violence, elle écarta sa main. Bien plus tard, très souvent même, en se faisant sucer par...
Par des petites putes.
Bruno devait repenser à ces quelques secondes de bonheur effroyable. Il devait repenser aussi à ce moment où Caroline Yessaillant avait doucement écarté sa main.
Il y avait eu chez ce petit garçon quelque chose de très pur et de très doux. D'antérieur à toute sexualité, à toute consommation érotique, il y avait eu un désir simple de toucher un corps aimant, de se serrer entre des bras aimants.
La tendresse est antérieure à la séduction. C'est pourquoi il est si difficile de désespérer.
À mesure que Bruno, avançant en âge, replongeait avec difficulté dans les sentiments de son enfance, le noyau de sa destinée s'épurait. Tout apparaissait dans la lumière d'une évidence irrémédiable et froide. Tout était de la faute de la mini-jupe de Caroline Yessaillant.
Pour moi, les choses étaient bien différentes. Je pensais à Michel le soir avant de m'endormir. Je me réjouissais de te retrouver au réveil. Lorsqu'en cours, il m'arrivait quelque chose d'amusant ou d'intéressant, je pensais tout de suite au moment où j'allais te le raconter. Pendant les vacances d'été, je t'écrivais tous les jours. Même si mes lettres n'avaient rien d'enflammé et ressemblaient plutôt à celles que j'aurais pu écrire à un frère de mon âge. La réalité était la suivante. Du premier coup, sans l'avoir cherché, sans même l'avoir réellement désiré, je me trouvais en présence du grand amour.
Voilà pour cet extrait des Particules élémentaires, 2:03, sans musique, ce qui n'est pas si facile peut-être à trouver dans ce spectacle. On sait l'importance accordée par Julien Gosselin aux partitions sonores aussi de ces spectacles, encore une fois très riches dans celui-ci. Jean-Christophe Brianchon, comment sur ces Particules élémentaires? Vous l'avez vu combien de fois?
Deux.
Deux, c'est bien.
Deux fois. Une première fois en 2014 et puis la semaine dernière. J'ai justement trouvé, c'est intéressant de l'avoir deux fois, parce que en 2014, justement, moi j'avais été pris par toute l'histoire de ce metteur en scène, qui était un très jeune metteur en scène, qui avait mis en scène donc ce texte qui est a priori compliqué à mettre en scène au théâtre. Mmh. Et donc nécessairement le brio qui est le sien, puisque on va y venir, c'est quand même formellement assez formidable. Donc le brio qui est le sien m'avait un petit peu, peut-être avait brouillé mon jugement et m'avait peut-être empêché de penser réellement la posture qui est la sienne ou la non-posture qui est la sienne face à ce texte. Je dis non-posture parce que justement je trouve que quelque chose qui ne m'avait pas interpellé à l'époque et m'a interpellé cette fois-ci, c'est ça, la façon qu'il a d'épouser totalement les idées, si ce n'est les idéologies de Michel Houellebecq, sans du tout prendre de recul avec, selon moi, et donc en ne faisant qu'illustrer, on va dire, la merditude du monde, en fait, quoi, concrètement, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire, c'est deux frères, un qui court après le sexe, et l'autre après la dépression, ou après la mort, peut-être, ou après la science, bon.
Et, l'explication
et donc,
du monde.
Donc chacun représente à sa manière une certaine, à sa manière, la façon dont le monde va mal, on va dire. Là, en l'occurrence, Julien Gosselin ne fait qu'illustrer. Mais alors, illustrer avec une efficacité telle et un brio tel que c'est assez compliqué formellement et théâtralement de le remettre en cause. C'est plus idéologiquement et intellectuellement que je comprends pas exactement sa démarche. En revanche, bon, théâtralement, la scénographie rentre parfaitement là aussi en résonance avec le monde qu'elle décrit. C'est donc puisque c'est une forme de théâtre dans le théâtre, puisqu'il y a une scène qui en entoure une autre, en fait, concrètement. Donc la scène du centre sur laquelle jouent les deux frères, entourés par le monde qui les regarde, en quelque sorte le monde qui est nous, qui les regardent a priori sans empathie, et voilà, on les regarde donc évoluer dans ce monde qui va mal. C'est assez brillant, c'est en plus très rythmé, très musical, mais musical au bon sens du terme, j'ai trouvé, enfin, si on en juge à l'efficacité que ça crée et au bonheur que ça crée au spectateur. Après voilà, en revanche, en termes d'idées et d'idéologie, je trouve ça questionnable.
Fabienne Pascaud, sur les Particules élémentaires, vues par Julien Gosselin.
Alors moi, je l'ai vu deux fois aussi, mais je n'ai pas vu la nouvelle version, mais je pense qu'elle n'est pas nouvelle. C'est vrai qu'après Simon McBurney et toute la virtuosité, tout le travail qu'il fait autour de Zweig, c'est plus illustratif, comme le disait Jean-Christophe.
Ils n'ont pas le même âge et la même carrière.
Non, il avait 24 souvent l'âge ne fait rien à l'affaire. Mais on a vu qu'il avait énormément progressé, par exemple avec le 2666 de Bolaño, qui était vraiment un exercice de haute maîtrise. Moi, j'ai beaucoup aimé les Particules élémentaires. Mais pour être un petit peu d'accord avec ce que dit Jean-Christophe, peut-être que le spectacle est plus sentimental. Et Houellebecq est plus cynique que ça, et plus vachard. Il a un regard plus noir sur la société française. Là, c'est vrai qu'il y a une partie de plaisir, et c'est vraiment jubilant. C'est pour ça qu'il faut aller voir ce spectacle, parce que c'est admirablement joué par 10 comédiens. Ça dure 3h40, mais ça passe admirablement. Le dispositif scénique est très bien fait. Les comédiens sont présents en permanence sur le plateau. Il y a de la vidéo, mais pas trop. Mais sur l'analyse vraiment du roman, c'est un peu frontal. Il y va avec tout son cœur et tout son amour de Houellebecq, mais toute la subtilité, toute la rosserie et tout le côté noir de Houellebecq n'y sont peut-être pas complètement. Houellebecq, c'est plus sophistiqué que ça. C'est un peu au premier degré. Mais tant mieux, c'est magnifique. Ne boudons pas notre plaisir.
On ne boude pas. Anna Segalevitch.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disent Fabienne et Jean-Christophe. Parce que, donc, moi, je l'ai vu trois fois.
La troisième fois
à Avignon. Deuxième fois à Berthier. Et là, donc, au théâtre de l'Odéon. Alors, de le revoir, donc déjà, je trouve que le spectacle souffre une troisième vision sans aucun problème, ce qui est déjà pas mal.
Ah oui, ce qui est plutôt rare, oui.
Voilà, ce qui est quand même plutôt rare. Je l'ai revu avec autant d'intérêt, de curiosité et de plaisir, je dois dire. Alors, la configuration de Berthier faisait que, quand même, de par sa scénographie, enfin, de par la configuration, la scénographie était plus importante à Berthier, me semble-t-il. Elle embrassait plus la salle, avec cette scène qui est plus
Berthier,
large.
Berthier, c'est un gradin, et le plateau est le sol, en fait. Alors que l'Odéon, c'est un théâtre à l'italienne,
oui,
pour donner des images à celles et ceux qui ne connaissent pas ces salles.
Oui, la salle est plus profonde, enfin, les proportions sont pas exactement les mêmes, mais bon, voilà. La scénographie,
Berthier, comme Avignon, on surplombe.
Voilà.
On surplombait.
Mais quelle idée de l'avoir mis à l'Odéon?
Moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais j'y viendrai tout à l'heure quand ce sera mon tour. Anna Segalevitch.
Voilà. Je trouve pas que Gosselin illustre le texte de Houellebecq, déjà pour une simple raison, le traitement des corps, la façon dont il traite la chair sur scène et la façon dont il traite ce texte, lui, jeune homme de une trentaine d'années, qu'est-ce qu'on fait de ces textes de, comme le disait Fabienne, de cyniques, de gens totalement désabusés, d'écritures comme ça, cyniques d'ailleurs, bon, ironiques surtout, plus que cyniques, parce qu'il y a aussi quelque chose de désespéré et de sentimental, me semble-t-il, dans le texte. Il y a quand même une quête d'amour, il y a quand même une foi en l'amour, il y a quand même tout ça, même si tout foire et que ça se finit très très mal, les gens cherchent
quête dont on sait déjà qu'elle échouera. Hein.
Oui, mais la quête est quand même là. Ce qui compte, c'est de chercher, c'est d'essayer, c'est d'y
pas
croire.
C'est pas trouver, enfin.
Il y a aussi un premier degré, me semble-t-il, de la part des personnages, une sincérité et une innocence, je dirais même, qui est très présente et que met très bien en scène. Il pousse de ce côté-là, ça je suis d'accord, mais il le met très très bien en scène. Et le fait que ce soit donc de jeunes gens qui interprètent ça, donc cette génération des années, donc jeune, dans les années 60-70, totalement permissive, qui ont eu tous les droits, qui ont tout fait. Donc, ce que Houellebecq nous dit, c'est que c'est ça qui a mené au serial killer des années 90, aux activistes viennois, etc. Enfin, voilà, à toute la violence de la société. Bon, je résume un peu, je vais un peu vite, reconnais. Mais on voit du coup des jeunes gens qui devraient être vieux, parce que dans le roman, dans les années 90, enfin vieux, ils devraient avoir une cinquantaine ou une soixantaine d'années. Or, ils ont 30 ans. Et donc, pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est cette génération jeune qui subit très très violemment l'héritage des générations passées,
raconté
par Houellebecq, et qui ne peut rien faire, qui n'a pas de marge de manœuvre, qui est dépassé, qui est écrasé et qui subit tout ça. Et donc on voit ces corps jeunes, vivants, désirables et beaux, qui sont écrasés par l'histoire de leurs parents.
C'est justement là qu'il épouse toute la pensée de Houellebecq. C'est dans l'impossibilité de la jeunesse à pouvoir se défaire du monde créé, du monde passé, qui est du coup de fait le monde présent.
C'est pas exactement ce que dit Houellebecq. Houellebecq, il raconte le parcours de personnes jeunes dans les années, à la fin des années 60-70, qui vieillissant vont à leur propre perte.
Mais il parle d'une destruction de la morale qui serait une chose logique, la continuation logique. C'est ce qu'ils disent quand ils scandent actionniste, beatnik, hippie, serial killer. Bon, c'est la continuité logique du monde, on en est arrivé là, et on en est arrivé là. Supposément, on ne pourra pas aller ailleurs. C'est le point d'arrivée.
Il met en scène.
Et donc la jeunesse est justement enfermée là-dedans.
Alors, non, je pense.
Vous y avez vu un clin d'œil à l'aujourd'hui, Anna, alors? J'ai pas bien compris, moi, ce que vous disiez.
Le fait que ce soit des jeunes comédiens qui,
que c'est encore plus
qui
violent,
racontent cette histoire-là.
Que c'est encore plus violent.
Ce sont les enfants de l'histoire que raconte Houellebecq.
Non, on est d'accord.
C'est normal qu'ils soient jeunes, puisqu'ils sont jeunes dans le roman.
Ben non, pas dans les années 90. Ils sont jeunes dans les années 60.
Mais oui, ils ont 50 ans à la fin.
Christiane et Bruno et tout ça, ils ont bien 50-60 ans à la fin. Puisqu'ils se retrouvent, qu'ils se sont pas vus depuis 25 ans.
Oui, je comprends. comprends. Voilà. Bon.
Peut-être juste pour prolonger et soutenir Anna Segalevitch, dire pourquoi je pense que c'est une bonne chose que ce soit effectivement au Théâtre de l'Odéon, dans le 6e arrondissement, la salle historique, justement pour cette raison. Un parallèle m'est apparu quand Michael Haneke avait créé la mise en scène de Don Giovanni. C'était au Palais Garnier et le décor, c'était la Bastille. Et j'ai trouvé très stupide que les reprises se fassent au théâtre, à l'Opéra de Bastille. Et du coup, il y avait plus cette friction. Là, ayant vu ce spectacle à Avignon, tout d'abord, dans un dispositif qui ressemble à celui de Berthier, j'ai trouvé qu'il y avait une plus grande force parce qu'il y avait effectivement cet entrechoquement, entrechoquage, je ne sais pas quel est exactement le mot, entrechoquement, je ne sais pas, entrechoque, de génération. C'est-à-dire que c'est cette modernité dans ce vieux théâtre, magnifique et très bel écrin, tout d'un coup produisait aussi un sens, moi je l'ai un peu perçu comme Anna Segalevitch, à cette vision-ci, parce qu'il y a ce télescopage-là, c'est mieux télescopage qu'entrechoquement, parce que le constat, alors il est très dur, mais il n'est pas définitif le constat de Houellebecq, je crois qu'il pose un état des lieux qui est quand même... Enfin, me semblait-il assez proche de la réalité de l'état du monde.
Il est exactement définitif, puisque j'ai noté une citation de la pièce qui m'a justement un petit peu agacé. C'est « En définitive, la vie vous brise le cœur ». Et bon, bah, du coup, plus définitif que ça, c'est difficile. Donc, ouais, la vie de ces jeunes se trouve brisée sur le passé de leurs parents, justement.
Bon, mais ça, c'est parce que vous êtes très jeune, Jean-Christophe. Vous savez pas encore que la vie vous brise le cœur, mais on en reparlera dans quelques années. Je ne le souhaite pour personne, évidemment. Mais à propos de texte, moi, j'ai quand même été saisi. Une nouvelle fois, et ça, c'est pour ça que c'est bien de le revoir, je pense, par quand même la beauté du texte de Houellebecq est capable de passer d'une séquence, d'une trivialité absolue à des phrases, mais sublimes, enfin d'une invention poétique, pardon, c'est un mot qui sonne un peu niais comme ça, mais d'une beauté
et sur la chair,
extraordinaire.
Sur la chair, il est très bon aussi.
Très bon.
C'est pour ça que Gosselin n'apporte pas grand-chose non plus.
Ah, mais de le mettre en scène, c'est pas simple, hein, je pense.
Il y a une discussion, un peu en chuchotement, comme ça, qui se passe tout d'un coup entre Fabienne Pascaud et Anna Segalevitch.
Moi, je voulais juste dire que j'en ai marre des reprises. Quand même. Parce que tous ces spectacles qui reviennent, cette saison-là, on n'a que ça.
Alors, c'est une question que je me suis posée aussi.
Pourquoi trois fois les particules élémentaires? Pourquoi pas plutôt lui donner les moyens de faire autre chose?
Donc ça, ce sera pour l'été prochain.
The Encounter, dont vous avez parlé, on l'a déjà vu aussi.
Fabienne. D'abord, oui, The Encounter a été donné au printemps des comédiens, les particules élémentaires.
Il y a beaucoup de reprises. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de moyens?
Il y a des raisons économiques très simples, je pense, à cela. Oui.
Mais est-ce que c'est pas aussi tout simplement du fait que les directions des scènes ont été renouvelées il y a peu de temps et du coup les directeurs arrivants ont peut-être pas
encore. Eh ben, qui bossent, qu'ils aient de l'imagination, qu'ils aillent voir ailleurs.
Mais Stéphane Braunschweig a-t-il eu le temps de réellement penser une.
Moi ça me fatigue, vous voyez.
Non mais je suis d'accord, après je pense que cette année-là en l'occurrence il y a peut-être juste une raison très concrète qui ne soit pas du coup très politique.
Je trouve qu'il y a trop de reprises là à Paris.
C'est vrai que la rentrée est beaucoup faite de reprises.
Alors ouais. C'est vrai que c'est la parisienne et je reconnais que c'est un peu de mauvais goût et c'est un peu élitiste par rapport à nos auditeurs de région. Mais
et même des parisiens qui n'ont pas pu avoir de place pour les précédentes séries.
Oui, mais ça donne un sentiment, ça donne un sentiment de pauvreté de la création.
Mais je pense pauvreté du monde théâtral et du théâtre public, n'en dépêche au théâtre privé qui appelle à
une finance davantage. Je suis sûre que non, qu'on donne les moyens à des jeunes de faire des choses au lieu de reprendre sans arrêt.
À la résidence de création, du temps de répétition, de l'écriture, qui donne ces moyens aujourd'hui dans le théâtre public?
Il y en a des moyens.
Non, mais qui,
il faut partager l'argent, c'est tout.
Il faut partager l'argent, alors c'était une autre question qui se pose encore.
Des moyens, il y en a, il faut faire des choix.
Ça y est, on ouvre un petit salon, en attendant que si le Como revienne, ce sera pour bientôt.
Et pardonnez ce cri.
Non, mais... C'était un cri un peu, entre guillemets, de riche, si vous voulez.
Oui, bien sûr.
Et on est d'accord qu'il y a beaucoup de reprises, mais pour certains, ce sera la première fois. Il y a des gens qui vous écoutent ce soir
pour la première fois.
Et qui, voilà, qui vous écoutent ce soir pour la première fois et qui sont subjugués à vous entendre. Du coup, on a un peu dérivé des particules élémentaires, mais avec. Il faut quand même garder un peu de temps pour Gary James. Et cette onde d'œil, vous n'avez pas des gens qui l'ont vu trois fois et qui se plaignent de le voir une quatrième, les particules élémentaires?
Non, pas pour le moment.
Pas pour le moment. Bon, vous voyez, donc, comme quoi ça n'a pas lassé absolument tout le monde. Bon, salut aussi aux comédiens qui sont aussi musiciens pour la la plupart, pour un certain nombre, dire quand même qu'il y a une énergie dans ce spectacle. Je le verrai peut-être bien une quatrième fois. Non, je sais pas, mais qui va bien. Anna, pour finir.
Là, juste ce que j'ai ressenti cette fois-ci, c'est que le spectacle me paraissait plus unifié que les deux précédentes fois où il y avait, dans mon souvenir, des pics, des fulgurances, notamment la scène Bruno Christiane qui se détachait totalement du spectacle. Et le lieu du changement, la scène de hippie m'avait un petit peu ennuyée la première fois. Et là, il me semble que, alors peut-être que c'est parce que je le vois et que je ne découvre pas, que je le revois, mais qu'il y a quelque chose de plus tendu et que la tension monte de façon plus continue de bout en bout.
Et puis on le regarde autrement, ce spectacle, dans un théâtre à l'italienne où on lève les yeux vers le plateau et on lève les yeux vers l'écran, au lieu que dans Berthier ou comme c'était à Avignon, on baisse les yeux vers le plateau et vers les comédiens. Il y a quand même quelque chose aussi qui ne donne pas tout à fait, pas du tout le même rapport à ce qui se joue sur scène et ce qu'on nous donne aussi à voir comme image, quelques moments de vidéo. Pas trop, on est d'accord, Fabienne Pascaud. Bon, beaucoup de choses encore à dire. Alors, non seulement ces particules élémentaires sont données une nouvelle fois à Paris, mais ils n'avaient jamais été donnés au Théâtre de l'Odéon Paris 6e, c'est jusqu'au 1er octobre, mais il part en tournée, dans des lieux où on n'a peut-être pas joué encore, à Anvers, 11 et 12 novembre, à Rome, 18 et 19 novembre, au Grand Théâtre de Luxembourg, 24-25 novembre, à la Coursive de La Rochelle, 30 novembre et 1er décembre, au Théâtre National de Bruxelles, du 5 au 9 décembre, au Volcan du Havre, le 12 et 13 décembre, et puis dans une des maisons de Julien Gosselin, au Phénix de Valenciennes, les 20 et 21 décembre.
France Culture.
La Dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et le troisième sujet de cette dispute spectacle vivant ce soir, c'est À Vif, spectacle mis en scène par Jean-Pierre Barrault sur un texte de Kerry James avec ce dernier et Yannick Landrin. Alors c'est une reprise, Fabienne Pascaud. Il a été créé au mois de janvier cette année à la scène nationale du Jura. Il a déjà fait le plein au printemps dernier au Théâtre du Rond-Point, qui est à vos faveurs, on le sait. Il s'est à nouveau installé jusqu'au 1er octobre, plus particulièrement. Télérama a des liens forts avec le Théâtre du Rond-Point.
Avec plein de théâtres.
Oui. Alors le point de départ, c'est le suivant. Deux élèves avocats qui doivent répondre à la question « L'État est-il le seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France ?» Le premier, c'est un concours, doit répondre par l'affirmative, le second par la négative.
Après le troisième tour de notre concours, je me suis retrouvé avec ce type et quelques-uns de nos camarades. C'était la première fois que je me retrouvais à table avec lui, et vous savez ce que ce grand défenseur des banlieues m'a demandé ?
Dis-moi, tu pourrais nous trouver un truc pour ce soir ?
C'est-à-dire ?
Eh ben, tu pourrais nous trouver un truc ?
Je comprends pas.
Un truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire ?
Pour le mal de ventre, t'as ce passe-fond, et pour la diarrhée, t'as Smecta.
Non, mais t'as très bien compris.
Oui, j'ai bien compris. Le concours d'éloquence, c'est important pour toi. Donc tu stresses. Et le stress te donne des maux de ventre, les maux de ventre te donnent de la diarrhée, en d'autres termes, tu chies dessus. Et t'es en train de me demander si je connais un truc contre ça, et moi je te réponds, Spasfon ou Smecta.
Ok, c'est bon, laisse tomber.
Non, non, je laisse pas tomber. Pourquoi il me demande ça à moi ? Pourquoi pas à lui ? Ou à elle ? Ou à lui ? Parce que je suis noir et que je viens de la banlieue. Donc pour lui, je peux me procurer de la cocaïne, des extasies, des armes de guerre en claquant des doigts.
Écoute, je suis vraiment désolé si je t'ai vexé, mais là tu vas un petit peu loin. J'aurais pu demander ça à n'importe lequel d'entre
nous. Mais tu n'as pas demandé à n'importe lequel d'entre nous.
Non, je ne l'ai pas demandé à n'importe lequel parce que je les connais, que je sais qu'ils ont rien. Mais je t'aurais posé la même question si t'étais blanc et que tu venais de Neuilly. Non, mais tu veux que je te dise le problème, c'est que vous êtes tous parano et mal dans votre peau.
Ah, ça y est, on y est. Vous.
Vous. C'est ouais, qui, vous. Vous. Vous, c'est vous. C'est vous qui pensez, là déjà, dès le départ, que tous les gens sont racistes, que personne ne vous aime, et qu'ils sont pleins de préjugés à votre sujet, mais tu veux que je te dise, c'est vous qui êtes plein de préjugés.
Ouais, j'avoue. J'avoue que j'avais plein de préjugés sur toi. Et qu'avant de te connaître, je te prenais pour un fils de bourgeois, frimeur, prétentieux, arrogant, opportuniste. Mais ce sont des préjugés, n'est-ce pas ?
Voilà, pour cet extrait de À Vif. Alors cet extrait, c'est pas d'ailleurs ce concours d'éloquence, hein, c'est un flashback dans le concours d'éloquence sur une scène vécue par les deux rivaux de la soirée, on va dire cela comme ça. Je dis ça, mais je n'ai pas vu ce spectacle. J'ai lu le texte publié Jacques sur papier. Merci. Le texte, je dois le dire, parce que c'est ma seule base, m'a semblé quand même d'une écriture assez pauvre et sur le fond pas très subtile. Fabienne Pascaud.
Et écoutez, moi, le spectacle, j'y suis allée parce que...
On vous a obligé
fils... Non, pas du tout. Mon fils de 20 ans m'avait réclamé des places pour ce spectacle dont j'ignorais jusqu'au titre, 2 mois avant que ça commence, en gros. Donc, j'y suis allée avec lui, qui y est retourné 3 fois. Et je me suis trouvée face à un spectacle qui m'a un peu troublée, désarçonnée, avec une salle en délire. Avec des gens que je n'avais jamais vus au théâtre, des jeunes, des vieux, des gens de couleur, des gens pas de couleur, et enthousiasmés par ça. Donc, quoi qu'on pense de ce spectacle, et je devine que nous ne serons pas forcément tous d'accord, c'est une réussite humaine que de faire venir dans cette salle les banlieues, un autre public. C'est pas un hasard d'ailleurs si Jean-Michel Ribes a demandé à Kerry James d'être auteur associé cette année au Rond-Point. Et vraiment, il y a une émergence. Alors, les gens saluent debout, il y a une ovation à la fin qui m'a surprise un petit peu parce que la mise en scène est assez basique. Le partenaire de Kerry James, à mon avis, est un petit peu insuffisant. Mais ça marche. Mais ça pose des vraies questions aux jeunes et à tout un tas de gens qui n'étaient jamais venus au théâtre et qui n'y sont venus que pour Kerry James. Donc, déjà...
Ça, là-dessus, oui. Moi, j'ai chapeau. Vu plein de fois, en allant voir d'autres spectacles au Rond-Point, des salles remplies. Enfin, je voyais soit rentrer, soit sortir, avec du public qu'on n'y voit pas d'ordinaire.
Ah non, mais... au Rond-Point, j'ai jamais vu ce genre de public.
Non, mais c'est ce que je dis, qu'on n'y voit pas d'ordinaire.
Ah oui, voilà.
Et des salles remplies à ras-bord. Mais je vous parlais du spectacle, là.
Alors, le spectacle, moi, je ne suis pas d'accord sur l'écriture de Kerry James, que j'ai relu le texte. Je trouve que ce type possède la langue française à merveille, que ses plaidoiries sont rudement bien foutues. C'est pas pauvre, au contraire, il y a une richesse de langue, il y a une richesse de vocabulaire, il y a ça pulse. L'écriture, franchement, l'écriture, moi, m'a séduite. Hein. Lui, c'est un acteur absolument époustouflant, qui a une présence formidable. Ce qu'il y a, c'est que cette joute en soi, c'est pas du théâtre, c'est une espèce de joute d'éloquence, de bataille du verbe et de battle, hein, comme ils font dans le hip-hop et tout ça. Et ça, je trouve que c'est une forme qui est intéressante. Sur le contenu, la responsabilité de l'État ou pas, ou la responsabilité des gens en matière de drame de ce qui se passe dans les banlieues, c'est intéressant. Et c'est pas traité bêtement. Alors, la mise en scène est basique, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre ? Moi, la mise en scène m'a un peu déçue. Je ne l'ai pas trouvée très inventive. Je n'ai pas trouvé Yann Ladrin formidable, mais j'ai quand même été assez scotchée. Non, j'ai écorché
Yannick.
Son nom.
Yannick Landrin. Yannick. Ouais, il l'appelle Yann parce que c'est un pote.
Le personnage s'appelle Yann.
C'est un pote de Fabienne.
Mais non,
salut
parce
Yann.
Que le personnage
mais je plaisante.
Yann.
J'ai un pote qui s'appelle Yann.
Mais non. Anna Segalevich.
Bon.
Synthétique.
C'est compliqué ce spectacle parce que c'est un spectacle qui est malin et qui est habile. C'est-à-dire que dès le départ, les deux apprentis avocats, donc c'est celui qui est noir et qui vient de banlieue qui va dire mais non, l'État n'est pas responsable,
ce sont les gens
qui refuse la victimisation, qui refuse le déterminisme social, et c'est l'autre qui vient. Alors là, par contre, oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez ambigu en fait sur l'autre parce que Traoré l'accuse d'être a priori un fils de famille extrêmement aisé, mais en fait on n'en sait rien, il est juste blanc dans une école d'avocats. Rien ne dit qu'il est riche et qu'il est dans un jet, donc il s'amuse avec ça d'ailleurs, il en fait lui des caisses. Bon, donc là la situation est inversé, c'est habile, il y a une joute verbale qui est savoureuse, il y a un sens de la rhétorique vraiment qui me semble évident. Après, pour moi, c'est pas éclairant tout ce qui est dit. C'est du bon sens, je suis d'accord avec tout ce qui est dit, mais les personnages qui, a priori, essayent d'échapper à des clichés, au final, retournent à leurs clichés. Et finalement, ne sortent pas, à mon sens, de leur contour social. C'est-à-dire que on commence par nous dire non, non, c'est pas du tout ce que vous croyez, ça va se passer autrement que ce que vous pensez. Et on dit ah, d'accord. Et puis hop, on nous en met dans un sens, dans un autre, avec de l'humour, avec de la subtilité, avec quelque chose de vraiment savoureux. Et il faut dire que Kerry James est en effet extrêmement.
Ah, bah, je l'ai vu au Bouffe du Nord, il a un charme.
Mais il est charismatique, il a un charme. Et puis il est pas dupe, il s'amuse. Mais moi, j'ai plutôt aimé aussi l'autre acteur, je trouve que le duo fonctionne bien. Mais au final. Eh ben non, au final, telle personne est telle personne et l'autre reste l'autre. Et moi, je ne trouve pas que les deux France se rencontrent. Alors certes, j'étais assise dans une salle avec des gens que je ne vois pas a priori au théâtre, mais je ne trouve pas que la rencontre ait lieu entre les spectateurs. Je ne trouve pas que... Oui, ils sont venus au théâtre
moins,
du rond-point.
Tout le monde connaît les clichés de l'autre.
Oui, mais on n'en sort pas de ces clichés, finalement. On les dénonce sans y échapper, à mon sens. Voilà.
Alors, avant d'entendre Jean-Christophe Briançon et Seth Wundoy, un commentaire.
Un message de Ludovic Morin qui a vu à vif en janvier dernier au rond-point. Il avait alors trouvé l'interprétation moyenne et la scénographie assez pauvre. Il pointe néanmoins que le sujet et le texte font mouche et recommande vivement ce spectacle.
Bon, c'est l'ami de Fabienne Pascaud. Jean-Christophe Briançon.
Bon, j'ai peu de temps et j'ai très envie de m'énerver, mais je vais essayer de ne pas m'énerver. Je trouve que c'est un spectacle qui est absolument terrible. Je pense que, alors, je sais même pas s'il est nécessaire de parler de la forme en tant que telle, puisque la forme est d'une pauvreté absolue. Ce metteur en scène a mis trois objets sur scène, il est même pas capable de les utiliser tous les trois. Il y a deux pupitres et une table. Cette table qui occupe donc la moitié de l'espace ne sera utilisée qu'une fois pendant quoi trois pauvres minutes. Donc moi je suis assez partisan. Il me semble que c'est un proverbe russe qui dit que quand il y a un pistolet sur une scène, il faut qu'il tire sa balle. Et ben je pense que c'est exactement vrai au théâtre. Il faut toujours que ce soit le cas. Là, en l'occurrence, il a mis trois éléments.
Non.
Sûrement.
Je crois que c'est dans le
film. En l'occurrence, là, il y a trois éléments.
Théâtre, ouais.
Mais non, mais justement, et on va y finir justement, c'est pas du théâtre. Là, il y a trois éléments sur scène. Il est même pas en mesure de les utiliser tous. Donc, formellement, c'est quand même d'une pauvreté absolue. Et après, Anna parlait de joute verbale habile. Bah, je pense qu'il est pas compliqué de savoir que la joute verbale habile, sur le plan politique et intellectuel, il y a rien de pire. Quand quelqu'un nous assène une joute verbale habile, c'est par définition même, l'incapacité donnée à celui qui vous écoute de penser. Donc le public sera évidemment incapable de penser, d'autant plus incapable de penser que là, c'est effectivement d'une habileté réellement remarquable en l'occurrence. Donc là, on se retrouve face à un propos asséné d'une binarité vraiment désarmante, parce que évidemment, la forme même de la pièce implique implique la pensée binaire qui elle-même aussi quand même empêche la réflexion et empêche la possibilité de penser. Et tout sera dit des clichés effectivement de l'un et de l'autre, mais rien d'autre, sans que jamais la possibilité soit donnée au public de pouvoir s'extraire et de pouvoir penser par lui-même. On lui sera juste asséné quelque chose. Et alors, je trouve ça encore plus terrible de penser que le public puisse être un public jeune, en l'occurrence, et un public qui ne va pas au théâtre, parce que ça va non seulement l'empêcher de penser, et en plus, il ne verra pas du théâtre, puisque comme vous l'avez dit, Fabienne, en l'occurrence, on ne voit pas du théâtre, on voit un espèce de show démagogique se dérouler devant nous.
Je vous assure que les jeunes de 19 ans en tirent quelque chose, et qu'ils
en tirent quelque chose, je sais pas.
Ils discutent. On n'est pas à leur place.
Non, je suis pas à leur place.
De l'endroit où vous parlez, comme on dirait, on peut pas se rendre compte. Je vous assure que ça crée du débat. Moi, je les ai vus à la sortie.
Ils sont juste heureux d'entendre sur une scène et validés par l'institution les propos qui sont les leurs dans la cour de récréation ou à la sortie de la faculté. Preuve en est la fin de ce spectacle qui se termine par une phrase qui est absolument terrible. Avons-nous les dirigeants que nous méritons? Donc c'est évidemment monsieur et madame.
Enfin, c'est pas très très neuf.
C'est terrible, c'est une question éternelle.
Sous-entendu, évidemment, non. On n'a pas les dirigeants
que les Français
qu'on
mérite. Ont les dirigeants qu'ils méritent.
C'est ce que monsieur et madame tout le monde se demandent. Et quand on voit cette salle après tant de banalité se lever et crier comme ça debout face aux deux acteurs, à cette question on a envie de répondre que oui, évidemment, quand on voit les gens réagir comme ça face à ça, on n'a rien d'autre que
pas
les hommes
mépris,
politiques qu'on
pas
mérite
de mépris.
Mais si, mais moi-même hein, moi le premier, je trouve ça honnêtement terrible.
Bon, eh bien là-dessus, on se quitte. Juste un petit dernier mot, et ça tourne d'œil.
Oui, un message de Zavico sur les reprises et notamment celle des particules élémentaires. Le spectacle affiche complet, la preuve pour lui qu'elles ont toutes leurs raisons d'être. contre qui donc Fabienne Pascaud.
Ah, ben voilà.
Bravo, il a raison.
C'est la fiche complète. Bon, ben, ce sera repris l'an prochain. Comme ça, vous aurez moins préparé l'émission. Donc, vous y retournerez pour cette fois. À Vif de Kerry James au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 1er octobre. Il y a un livre aussi qui est édité chez Actes Sud Papier, du texte. Il y a une tournée 2 décembre à Bergerac, 6 et 7 décembre à Liège, puis au Blanc-Ménil le 12 décembre, le 15 décembre à Narbonne, le 15 décembre aussi à Arles. Ça ne doit pas être la même date quand même, le même jour. Narbonne et Arles, c'est pas très loin, enfin quand même, c'est peut-être une heure et demie de voiture, ça me paraît compliqué. Et puis le dernier album, toujours disponible, Mohamed Alix. Avant de conclure le jeu de la dispute, il y a un rappel du jeu de vendredi soir. Et Grégoire Di Fiore va nous rafraîchir la mémoire. La question d'abord était...
Quel pays sert de décor au premier film du réalisateur Clément Cogitor?
Et la réponse est...
L'Afghanistan.
Et on fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition Raymond Depardon, Traversée, exposition à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris jusqu'au 17 décembre. On en parle bientôt dans la dispute. La question...
Quel candidat à l'élection présidentielle le documentariste a-t-il suivi pour son premier long métrage documentaire?
Et votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter ou vous abonner bien sûr au podcast de cette émission. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain à poster sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant, à moins que vous n'attendiez le direct pour commenter via le compte Twitter Dispute FC. Demain, donc, à 19h, une dispute consacrée à la musique en compagnie d'Emmanuel Giuliani, Marie Audroux et Emmanuel Dupuis. À notre affiche, La Veuve Joyeuse, encore une reprise, mais là, ça fait longtemps que ça dure, cette production de Georges Lavelli sur l'œuvre de Franz Lehár, c'était l'opéra Bastille. L'exposition Maria by Callas, c'est à la scène musicale, et puis reprise encore, Traviata. Vous méritiez un avenir meilleur, conçu par Benjamin Lazare, Florent Hubert et Judith Chemla.